Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Crise politique en Allemagne, les négociations pour une coalition au pouvoir ont échoué cette nuit. L'avenir politique d'Angela Merkel serait-il incertain? Nous interrogerons notre correspondant à Berlin dès le début de ce journal.
Zoom ensuite sur le quotidien des habitants et associations de l'île de Lesbos en Grèce. Les migrants continuent d'y affluer, une grève générale à l'appel de la mairie de Lesbos est prévue aujourd'hui.
Envers et contre tout, Robert Mugabe s'accroche au pouvoir au Zimbabwe. Le président ne veut pas démissionner. Il parlait hier à la télévision dans le pays, compte rendu à suivre.
Et dans ce journal également, Clara, nous nous intéresserons au coût pour les collectivités de l'exonération de la taxe d'habitation en France. Dès 2020, par exemple, 52 municipalités n'auront plus de contribuables à ponctionner.
La journée internationale des droits de l'enfant ce lundi. Et si on commençait par investir pour s'en occuper? Il y a un manque criant de moyens, dénonce aujourd'hui le défenseur des droits Jacques Toubon. Dans un quart d'heure après ce journal, votre rendez-vous politique. Frédéric Seyss reviendra sur le curieux congrès de La République en Marche ce week-end à Lyon, sans débat d'idées ni vote à bulletin secret. Angela Merkel reconnaît son échec. La chancelière allemande a déploré cette nuit l'impossible issue des négociations pour former un nouveau gouvernement de coalition. Près de deux mois après les élections législatives, son parti conservateur, la CDU, ne parvient donc pas à s'entendre avec les écologistes et surtout avec les libéraux du FDP. Nous rejoignons donc ce matin notre correspondant à Berlin. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Ce sont visiblement les questions autour de l'immigration qui coincent.
Oui, l'immigration, la politique migratoire, un sujet majeur pour l'Allemagne en ce moment. Faut-il fixer un nombre limite de réfugiés chaque année? Quid des regroupements familiaux? Sur ces sujets, il a été impossible de dégager un compromis. Mais ce n'est pas le seul dossier qui a coincé. Environnement, énergie, fiscalité, il y avait souvent un gouffre entre les conservateurs, les libéraux et les écologistes. On a pensé longtemps qu'Angela Merkel réussirait à arracher un accord malgré tout. Et puis, hier soir, c'est le parti libéral FDP qui a claqué la porte peu avant minuit au terme d'une énième réunion sous haute tension. Mieux vaut ne pas gouverner que mal le faire, a justifié Christian Lindner, le leader des libéraux, évoquant des divergences insurmontables. Cette coalition improbable entre trois formations très éloignées idéologiquement, cette coalition donc n'aura pas lieu.
Et Cyril, que va-t-il se passer maintenant ?
Bien, dans un premier temps, Angela Merkel va s'entretenir aujourd'hui avec le président fédéral qui est garant des institutions. La chancelière reste en poste jusqu'à nouvel ordre. Trois options restent désormais possibles. Une nouvelle grande coalition avec le SPD, mais les sociaux-démocrates l'ont déjà dit, ils ne veulent pas gouverner à nouveau avec la CDU d'Angela Merkel. Deuxième option, un gouvernement minoritaire, mais c'est l'assurance d'une instabilité politique et l'expérience n'a jamais été tentée en Allemagne. Enfin, troisième option, la plus probable, de nouvelles élections début 2018. Quoi qu'il arrive, c'est un terrible désaveu pour Angela Merkel qui sera forcément tenue responsable de ce fiasco. Son autorité est mise à mal. Et la question de son avenir politique va bientôt se poser.
Merci Cyril Sauvageau, correspondant de France Culture à Berlin. D'ici là, Angela Merkel l'a promis cette nuit, promis de faire tout pour que le pays soit bien dirigé au cours des semaines difficiles à venir. Fin de citation. Son gouvernement gère toujours les affaires courantes. L'Allemagne qui s'écharpe donc, entre autres, sur les questions d'immigration. La France, elle, vient d'annoncer qu'elle accueillerait les premiers réfugiés évacués de Libye vers le Niger par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Un groupe d'une vingtaine de personnes qui arrivera au plus tard en janvier prochain. La situation des migrants en Libye avait alerté les dirigeants et l'opinion publique, surtout la semaine dernière. Dans un reportage de CNN, on y voyait des migrants vendus aux enchères, aux plus offrants. Et quand ils ont passé la porte libyenne, certains réfugiés tentent de rejoindre l'Europe, s'arrêtant à sa porte grecque, l'île de Lesbos. Arrivée peut-être moins médiatique ces derniers temps, mais tout autant dramatique qu'il y a deux ans. Aujourd'hui, ils sont plus de 6000 à être piégés sur l'île, 100 à 150 personnes débarquant chaque jour. Le camp de Moria est surpeuplé et le gouvernement grec évoque la construction d'un deuxième camp sur l'île de Lesbos. Mais la mairie s'y oppose. Journée de grève générale donc sur l'île. L'exaspération monte et l'inquiétude également alors que les températures commencent à baisser, Marie-Pierre Véraud.
À Lesbos, tous ont en mémoire les scènes de désespoir de l'hiver dernier. Les morts, les grèves de la faim, les violences, le froid mordant, ces bâches de fortune qui croulent sous le poids de la neige et déjà les cris d'alarme des ONG. L'hiver 2017 arrive et la situation a encore empiré. 6500 réfugiés pour 2000 places dans le camp de Moria. Boris Chestchirkov est le porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés pour les îles grecques.
La situation est critique, il n'y a plus d'espace pour les gens. Même les tentes sont collées les unes aux autres. Mais ce n'est pas seulement la surpopulation, ce sont aussi les conditions sanitaires. Elles sont épouvantables. Et la sécurité, la nuit est très dangereuse. Violence, bagarres, les femmes et les jeunes filles sont en danger avec un risque très élevé de violence sexuelle.
Sans oublier l'abandon de personnes psychologiquement ou mentalement très éprouvées, victimes de tortures et d'abus sexuels dans leur pays ou sur la route de l'exil. Pour le HCR, la seule solution est d'accélérer les transferts vers le continent.
Sur les 6500 réfugiés de Moria, plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers, sont considérés comme des personnes vulnérables qui, selon les lois grecques, doivent être transférées sur le continent. Ou alors, ce sont des Afghans, des Irakiens, de nationalité qui ne peuvent pas être renvoyés en Turquie, où leur sécurité n'est pas assurée. Plutôt que de les garder si longtemps, et dans certains cas, nous parlons de plus d'un an, il faudrait leur permettre de poursuivre leur procédure d'asile en Grèce continentale.
Ce qui permettrait de détendre un peu la situation, d'autant que les arrivées ont bondi par rapport à l'année dernière. 5000 en septembre, 4000 en octobre, déjà plusieurs centaines ce mois-ci, pourtant coutumier des tempêtes. En majorité, ce sont des familles syriennes, irakiennes, afghanes, avec de très jeunes enfants.
Marie-Pierre Véro.
Et Robert Mugabe, le plus vieux dirigeant africain, 93 ans, ne renonce pas, Clara.
Pourtant exclu de son parti hier, et malgré la reprise de pouvoir par l'armée, il s'accroche à son poste au Zimbabwe, son poste de président qu'il occupe depuis 37 ans maintenant. Robert Mugabe l'a dit hier lors d'une allocution de 25 minutes à la télévision. Prise de parole suivie par Noé Auchet-Baudin.
I thank you and good night. Sorry.
C'est peut-être le dernier baroud d'honneur de Robert Mugabe. Son entourage avait laissé fuiter qu'il annoncerait sa démission pendant son discours à la Nation hier soir. Mais après 37 ans au pouvoir, le leader historique zimbabwéen ne démissionne pas.
Je suis conscient de vos inquiétudes, vous les citoyens de ce merveilleux pays.
Mieux, Robert Mugabe annonce même son retour aux affaires.
Je vais présider le processus du Congrès qui a lieu dans quelques semaines.
Il présiderait donc le prochain congrès de la ZANU-PF qui a lieu le 12 décembre, alors même qu'il a été exclu du parti un peu plus tôt dans la journée de dimanche. Après ce discours, le pays reste donc dans l'expectative. La ZANU-PF a donné à Robert Mugabe jusqu'à aujourd'hui midi pour rendre sa démission. Sans quoi, le parti entamerait une procédure de destitution au Parlement.
Une procédure de destitution qui pourrait donc être enclenchée d'ici demain, avant une manifestation déjà annoncée mercredi. Avant-hier samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient massées dans les rues de la capitale Harare pour demander la démission de Mugabe. Un milliardaire face à un journaliste. Voici le second tour de la présidentielle qui s'annonce au Chili. Le richissime conservateur Sebastián Piñera affrontera à la mi-décembre le socialiste et journaliste donc Alejandro Guillet pour succéder à la présidente de gauche, Michelle Bachelet. Le tristement célèbre meurtrier Charles Manson est mort à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite ce matin par l'administration pénitentiaire de Californie. Manson, terrifiant psychopathe à la croix gammée tatouée sur le front, avait commandité les meurtres de 7 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, épouse à l'époque de Roman Polanski. Condamné à la perpétuité, Charles Manson était emprisonné depuis plus de 40 ans. Le gouvernement l'avait promis. Pour le moment, il conserve sa ligne. Mais à quel prix? 80% des foyers français seront exonérés de la taxe d'habitation d'ici 3 ans. Depuis cette annonce du gouvernement, de nombreux maires s'insurgent car cette taxe entre dans le budget des collectivités locales. Et ce matin, des chiffres sortent. Des chiffres de la Commission des finances du Sénat. Le document est dévoilé par Le Parisien que vous avez parcouru pour France Culture. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour Clara.
Jean-Marc, Le Quotidien y dévoile donc des chiffres sur le coût à venir pour les collectivité de la suppression partielle de la taxe d'habitation. Et l'on apprend que les communes les moins aisées risquent de souffrir davantage.
Alors, à la première lecture, c'est ce qui apparaît. Certaines communes vont être plus impactées parce que le nombre d'habitants qui payent la taxe d'habitation va se réduire comme peau de chagrin, ce qui ne sera pas le cas des villes les plus riches ou les plus aisées vont continuer, eux, à verser l'impôt local. Le document dénombre déjà 52 municipalités qui n'auront plus de contribuables à ponctionner en taxe d'habitation, plus d'assujettis donc à la taxe. Pour d'autres, un seul ménage va y contribuer. Plus de 130 pourraient se retrouver dans cette situation. Une commune recourt où aucun foyer n'est exonéré passerait, elle, à 100%. On imagine donc les conséquences pour les finances communales. Or, la situation des petites et moyennes municipalités qui constituent l'essentiel du tissu communal est centrale. Dans ce palmarès, on voit que parmi les grandes villes, certaines comme Marseille devraient perdre énormément de recettes à 178 millions, plus que Paris. Toulouse subirait également un manque à gagner considérable de quelques 80 millions, plus encore que Lyon. On le voit, des effets inégaux selon les catégories résidentielles et qui, pour certains, posent d'emblée la question de l'égalité des communes devant l'impôt. Ensuite, celle de savoir ce qu'il adviendra de toute façon de la compensation promise par Emmanuel Macron. Les situations apparaissent tellement diversifiées qu'il semble bien difficile qu'elles puissent se faire à l'euro près. Le débat, en tout cas, a toute chance de tourner à la polémique.
Merci Jean-Marc Chardon, chef du service économique de France Culture. Ce rapport à présent que doit rendre ce matin le défenseur des droits, rapport sur les droits, oui, de l'enfant en cette journée internationale. Il s'est intéressé en France à leur accès à la santé et à leur éducation sexuelle notamment. Notre pays compte presque 16 millions de mineurs et ils sont 2 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. La faute aux lois, pas ou mal appliquées, une sorte de déni du droit, Cécile de Kervas-Doué.
On est loin du compte, a reconnu le défenseur des droits en remettant son rapport annuel. Aujourd'hui encore, 100 000 enfants sont en danger et les coupes budgétaires décidées par le gouvernement dans les services de la protection de l'enfance rendent impossible leur mise à l'abri. Faute de financement cohérent, plus de 30 000 enfants sont sans domicile fixe, soit moitié plus qu'il y a 15 ans. Faute de financement encore, les PMI et les médecins scolaires sont en voie de disparition. Les habitants de Mayotte et de la Guyane n'ont pas accès aux soins. Et faute de financement, les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire et pour l'éducation sexuelle des enfants sont de plus en plus rares. Le défenseur des droits, Jacques Toubon.
On peut avoir le sentiment que les combats que nous menons sont voués à, en quelque sorte, prêcher dans le désert. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Si la loi de 2005, qui prévoit la scolarisation en milieu scolaire ordinaire de tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, est aujourd'hui beaucoup mieux appliquée, plus de 300 000 enfants à la dernière entrée, c'est parce que le défenseur des droits et la défenseure des enfants, depuis des années et des années, se battent pour que les enfants handicapés ne soient pas discriminés. Une institution comme la nôtre, c'est par définition une institution qui est un sismographe de la situation de la société et puis qui, à partir de là, propose des solutions qui, dans 9 cas sur 10, ne sont pas mises en œuvre immédiatement.
À court terme, pourtant, le rapport préconise que pour les 18 000 mineurs étrangers non accompagnés, le plan d'action du gouvernement prévu début 2018 applique le droit des mineurs et considère ces exilés comme des enfants avant d'en faire des étrangers.
Christophe Castaner a rendez-vous cet après-midi avec Emmanuel Macron à l'Élysée pour discuter de son avenir au sein du gouvernement. Il est depuis ce week-end délégué général de La République En Marche, comprenez chef de file du parti. Élu à la quasi-unanimité, sans adversaire face à lui, il était jusque-là porte-parole du gouvernement, poste qu'il devrait abandonner. Reste à savoir s'il restera secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Un remaniement serait alors annoncé. Christophe Castaner, qui comme 11 autres responsables des partis politiques, parlera Europe aujourd'hui avec le président. Les rendez-vous vont s'échelonner jusqu'à demain soir à l'Élysée. L'Union européenne, justement, dont les frontières vont changer, Brexit oblige. Depuis l'annonce du divorce, les paris sont ouverts. Qui accueillera notamment l'autorité bancaire européenne et l'agence du médicaments. Réponse donnée aujourd'hui à Bruxelles. En France, Paris s'est positionné pour accueillir l'autorité bancaire et Lille est-elle candidate pour héberger l'agence du médicament? Un combat serré avec notamment Amsterdam, Barcelone ou Copenhague, 19 villes au total. Et d'autant que depuis quelques temps, les représentants du Nord, très motivés, craignent que l'Élysée ne se mobilise pas totalement pour cette candidature. Récit signé Frédéric Mettezo.
Politiques de droite et de gauche, chercheurs, universitaires, milieux économiques, préfets, c'est l'union sacrée sur ce dossier. Un maire n'avait pas vu ça depuis 22 ans et la candidature de Lille aux Jeux Olympiques. À Eurasanté, le grand pôle de recherche scientifique lillois, un dirigeant raconte qu'Hollande et Cazeneuve ont été exemplaires pour soutenir le dossier nordiste. Mais en septembre, changement de discours. Emmanuel Macron défend en même temps la candidature de Paris contre Francfort pour accueillir l'agence bancaire européenne. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, trouve que l'Élysée n'en fait pas assez. Son entourage ajoute qu'il s'en fout de l'agence du médicament. Il est sur sa stratégie européenne. Lundi dernier, Emmanuel Macron a promis à Xavier Bertrand et Martine Aubry de peser de tout son poids dans le dossier. Mais un conseiller régional craint que cela ne suffise pas. On a fait le job. Maintenant, ça se joue entre États. C'est de la réelle politique. C'est du troc. Si on l'emporte, ce sera une sacrée surprise.
Le temps ce lundi, de Bruxelles à Lille en passant par Paris, nuageux voire pluvieux ce matin. Au sud de la Loire en revanche, les brouillards devraient se dissiper à la mi-journée. Et les températures, la minimale, elle est à Lyon avec 0 degrés ce matin, 2 à Strasbourg, 8 à Paris, Nantes et Bordeaux, jusqu'à 14 degrés tout de même à Perpignan. Cet après-midi, comptez 6 à 18 du nord au sud.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.